la direction donnée par le Saint-Esprit ce soir, je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans le psaume 92. Et nous allons regarder dans ce psaume 92 comment le psalmiste s'exprime au travers de paroles qui ressemblerait fortement, et c'est comme ça que je définis ce message, des déclarations de la foi. La foi, nous le savons, ne nous laisse ni oisif, ni stérile quand elle est dans nos cœurs. Mais la foi qui s'attache aux promesses de Dieu, elle est rendue vivante. La foi est rendue vivante par les promesses. Et lorsque la foi est active, eh bien, c'est elle qui, autant étant alimentée par la patience, nous propulse dans la persévérance et nous donne à ne pas nous arrêter à ce que nos yeux voient, ni à ce que nos oreilles entendent. Parce que quand je parle des yeux et des oreilles, c'est ce qu'on appelle des sens naturels. Or, la foi n'est pas là pour s'attacher au sens naturel, parce que la foi est surnaturelle. Amen. La Bible décrit la foi comme étant une ferme espérance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et puis, le Saint-Esprit prend soin de mentionner que pour l'avoir possédé, les aînés ont obtenu un témoignage plus favorable. Donc, quand la foi est dans le cœur, eh bien, la foi active, c'est elle qui nous permet de plaire à Dieu. Amen. Alors, regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, comment le psalmiste s'exprime dans ce psaume 92, à partir du verset 9. Il est dit ceci, « Mais toi, tu es le Très-Haut. » Ailleurs, il est nommé l'Éternel, ailleurs le Tout-Puissant, ailleurs c'est le Dieu Tout-Puissant, ailleurs c'est mon Dieu, mais là le psalmiste dit, « Mais toi, tu es le Très-Haut. » Montrer que Dieu est au-dessus de tout. « Mais toi, tu es le Très-Haut. » À perpétuité, ô Éternel. En disant tu es le Très-Haut à perpétuité, il veut spécifier que toi, le Très-Haut, tu ne changes pas. Amen. Et puis il continue, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Et tous ceux qui font le mal sont dispersés. Pourquoi? Parce que tu es le Très-Haut. Mes frères et mes sœurs, vous savez qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des ennemis. Et nos ennemis, vous savez qu'ils sont acharnés. Étant acharnés, ils sont redoutables. Et puis nos ennemis n'ont point de relâche parce qu'ils poursuivent sous la direction de leur maître un dessein destructeur. Contre Dieu, contre Jésus, contre l'Église, contre les enfants de Dieu, il est acharné. Oh, je vous en ai déjà parlé de ses ennemis. Je les avais même notés, le premier ennemi. C'est la chair en moi, vieille nature, dans laquelle Satan trouve des attributs pour l'alimenter. Deuxième ennemi, c'est le monde autour de moi. Vous vous rappelez, le monde autour de moi, et si j'aime le monde, c'est une inimitié en moi contre Dieu. Troisième ennemi, Satan contre moi, déployant toutes sortes d'artifices pour que s'il était possible, il m'arrête sur le chemin de la persévérance et me fasse sortir du cadre du plan de Dieu. Et puis le dernier ennemi, la mort devant moi. Il est bon que le Seigneur nous les rappelle, hein. Premier ennemi, la chair en moi. Le vieil homme qui est corrompu dans son entendement, dont l'esprit ne conçoit pas les choses de Dieu. Car la Bible me dit que l'esprit qui est en moi, il a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Ils sont opposés entre eux afin que je ne fasse pas ce que je voudrais. Le monde autour de moi, qui, sous des aspects artistico-politico-religieux, gouverné par Satan. Donc le monde est gouverné par mon ennemi. Et il déploie toutes sortes d'artifices. Ça m'a vous dit qu'il a plus d'un tout dans son sac. Et s'il a essayé avec Jésus, c'est pas avec nous qu'il va pas essayer. Mais béni soit Dieu, qui, lorsqu'il déploie ses artifices pour essayer de nous arrêter, le Saint-Esprit en nous redouble d'ardeur pour nous donner non seulement à comprendre que nous avons l'appui de l'Écriture, nous avons le Dieu de l'Écriture, nous avons le Seigneur de l'Écriture, et nous avons l'Esprit de l'Écriture. De telle manière que, écoutez, c'est pas compliqué. Pendant que je vous dis ça, il y a une pensée que le Saint-Esprit me donne. Quelle pensée, pasteur gentil? Eh bien, Jésus le dit comme une déclaration dans l'Apocalypse. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Voici, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Et qu'est-ce qu'il rajoute pour conclure? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que Satan ne peut jamais arrêter un futur candidat pour le royaume de Dieu. Satan ne peut pas arrêter un enfant de Dieu qui est entré dans le plan béni du salut. Il va essayer, certes. C'est son rôle. Pourquoi? Parce qu'il est, en quelque sorte, si je définirais ça sur le plan politique, il est dans l'opposition. Mais nous sommes dans la majorité. Et le chef de notre majorité s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi le monde va déployer toutes sortes d'artifices, mais Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Le troisième ennemi, c'est, si le monde est autour de moi, c'est Satan contre moi. Mais enfin, Satan, c'est un ennemi contre moi, mais je comprends, par l'œuvre de la croix, c'est un ennemi, certes, mais c'est un ennemi qui est déjà vaincu. Et son travail sera d'essayer de me faire croire le contraire. Mais moi, je ne veux pas jouer dans sa cour ni dans son dessein. Moi, je m'appuie sur l'Écriture. La Bible me dit que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a vaincus publiquement en triomphant d'elles par la croix. Alors je dis Amen. Et quand l'ennemi voudrait maintenant me jouer un sale tour, je dis oui, Satan, tu es un ennemi, mais tu es un ennemi déjà vaincu. Rappelle-toi, Jésus t'a vaincu à la croix. Amen. Et là, devant mon insistance, qui n'est pas autre chose qu'une résistance en m'appuyant sur l'Écriture, il fut à loin de moi. Celui-là, dira-t-il, je ne peux pas arriver à mes fins avec lui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est actif en lui. Et quand le Saint-Esprit est actif en lui, le Saint-Esprit ne l'amène pas à des spéculations, à des élucubrations, le Saint-Esprit l'amène à l'Écriture. Et il confesse ce qui est écrit. Savez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur, a été tenté? La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Pourquoi il a été tenté comme nous en toutes choses? Parce qu'il était parfaitement homme. Après son baptême, il est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'ennemi va mettre les assauts 4 fois, mais Jésus répondra par « il est écrit ». Amen. Donc si Jésus a été tenté comme nous, mais nous aussi nous serons tentés. Mais il a été dit aussi qu'aucune tentation ne nous survient qu'il soit au-dessus de nos capacités. Et avec la tentation, le Seigneur a préparé le moyen d'en sortir. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais comme on va le voir tout à l'heure, c'est par son esprit qui habite en nous. Et puis la mort devant moi, mais Jésus m'a rappelé dans l'épître aux Hébreux que Jésus, il a vaincu le diable qui avait le pouvoir de la mort. Et ainsi, il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans la servitude. Merci Seigneur, tu es vraiment le héros de Dieu. Alléluia. Tu es au milieu de nous ce soir et nous te contemplons dans ta majesté. Alors, voyons, frères et sœurs en Christ, comment le psalmiste s'exprime au travers cette déclaration de la foi, ces déclarations de la foi dans le psaume 92. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et puis, au verset 11, il va avoir une confession merveilleuse. Qu'est-ce qu'il dit? Et toi, et tu me donnes la force du buffle. Et tu me donnes la force du buffle. Alléluia. Et tu me donnes la force du buffle. Eh bien, frère et soeur en Christ, je me suis laissé aller à penser que dans cette déclaration que fait le psalmiste ici, eh bien, il y a quelque chose qui est autant symbolique, mais qui est aussi significatif. Symbolique parce que quand vous connaissez un buffle, laissez-moi vous dire que c'est pas n'importe quoi un buffle, hein. Mais l'image que le psalmiste prend, elle est autant symbolique que significative. Et mon travail pastoral consiste à vous en donner les tours et les contours. Alors, premièrement, nous allons voir que le buffle, c'est un animal qui est d'une certaine ampleur, dans le sens où il mesure 1,7 m au garrot, 3,4 m de longueur, et il pèse au moins 900 kilos. Alors si on lâche un buffle et qu'il bondit sur l'estrade, je crois que lorsqu'il va faire deux bonds, ça c'est cool. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui a une force titanesque. Et c'est cette image que le psalmiste prend pour définir que le Très-Haut, alléluia, le Très-Haut qui s'occupe de ses ennemis, lui donne la force du buffle. Alors s'il dit que le Très-Haut lui donne la force du buffle, c'est pour montrer que les ennemis qui sont autour de lui, à côté de lui, qui sont concernés, ils le voient. Mais bien sûr qu'ils le voient. Écoutez, dans le psaume 23, le psalmiste va mentionner l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Puis après, il va dire, restaure mon âme, me conduis dans le pâturage, etc. Vous connaissez le classique. Mais à un moment donné, il va dire, il dresse devant moi une table. Où? En face. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et je me suis laissé aller à penser que l'expression du psalmiste disant que Dieu dresse devant moi une table en face de mes adversaires, la table dressée, c'est l'image du service. Mais s'il dit en face de mes adversaires, c'est pour que les adversaires, malgré leur proximité, voient que je sers mon Dieu. Frères et sœurs, vous savez, quand Satan voit que nous servons Dieu, que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, que nous nous en voulons pour lui, que nous témoignons pour lui, il voudrait nous bâillonner. Il voudrait nous empêcher. Il voudrait nous arrêter. Mais celui qui habite en nous, le Saint-Esprit, dit Claude, ne te tais point. Si Satan veut te bâillonner, moi je te libère. Afin que tu puisses annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, qui a fait de toi un enfant de son royaume. qui a fait de toi un témoin de Jésus-Christ. Or, un témoin, quand il vient à la barre, il y a deux choses qu'on lui demande. Tu es témoin, c'est ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Ça suffit. Et ce soir, comme témoin de Jésus-Christ, nous avons un témoignage de ce qu'il a fait pour nous, de nous et ce qu'il fait par nous. L'ennemi voudrait nous bâillonner. Et malheureusement, il a réussi à en bâillonner beaucoup. Et maintenant, le Seigneur va faire sauter les bâillons. Nous avons des choses à dire. Mon collègue de travail, mon voisin de palier, ceux qui m'entourent, que Jésus m'a racheté. Jésus m'a sauvé. Tiens, un petit témoignage. Un frère me dit un jour, il sort de l'assemblée. Il allait rentrer chez lui, et en rentrant chez lui, il rencontre un ami à lui, de longue date. Mais cet ami sait qu'il est un enfant de Dieu. Et à cette heure-là, certainement, l'ami comprend qu'il est sorti rendre le culte au Seigneur. L'ami lui dit, « Ah, tu es sorti à l'église. » Et l'ami lui dit ses propos, « Je sens sur toi l'odeur de la... » Oui, c'est-à-dire qu'il a voulu s'exprimer pour dire qu'il ressentait quelque chose, mais il est allé directement qu'il ressentait sur le frère l'odeur de la prière. Mais la Bible nous rend le témoignage que nous sommes appelés, comme enfants de Dieu, être la bonne odeur de Christ. Voilà la bonne odeur de Christ. Certes, aux uns, nous répondons un parfum de vie donnant la vie, mais aux autres, nous répondons un parfum de mort donnant la mort. Comment c'est un parfum de mort, pasteur? Oui, ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ, la bonne odeur qui dégage de nous, les conforte dans leur perdition. Mais ceux qui veulent de Jésus, ceux qui, comme nous, marchent avec lui, eh bien, lorsque ils nous voient vivre, c'est comme un parfum qui se dégage. Vous prenez deux roses là, une rose parfumée et une rose non parfumée. Et je vous assure, quand vous passez à côté, vous restez simplement, vous vous approchez près du nez, ce sont deux roses, mais il y a une qui dégage un parfum et l'autre ne dégage pas de parfum. Parce que c'est sa nature, elle n'est pas parfumée. Eh bien, nous voulons être des roses pour Christ, mais des roses parfumées, qui répandront la bonne odeur de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous savons que nous sommes dans la main du Maître. Et laissez-moi vous dire que même si nous ne sommes pas parfaits, Jésus nous aime. Amen. La preuve de son amour, je n'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Je n'ai qu'à regarder dans Romains 5, 8. Et je vois qu'il est écrit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous racheter. Gloire à Dieu! Et tu me donnes la force du buffle. Et puis, j'ai un petit peu mis devant vous le buffle, sa carrure, sa taille, sa longueur, son poids. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas dissocier du buffle. Ce sont sa corne, ses cornes. Une corne, la corne d'un buffle mesure au moins un mètre. Ah oui, une corne mesure au moins un mètre. Et c'est une arme redoutable demandée au lion. Quand je regarde des fois des documentaires animaliers et que je vois les lions qui poursuivent les buffles, moi je suis toujours pour le buffle. Ah, je suis toujours pour le plus faible, quoi qu'il soit le plus fort. Mais le lion a une astuce, parce que le lion, c'est un prédateur, et il sait que s'il tue un buffle, il aura à manger pour Alors, ils ont des stratagèmes, mais lorsque le bœuf se défend, attention, hein, il fait tout ce qu'il peut pour ne pas prendre un coup de corne. Non, mais dans la symbolique de l'emploi du bœuf, la corne symbolise, dans le sens biblique, la corne du bœuf symbolise la puissance divine. Donc, ce n'est pas rien. Lorsqu'il prend cette image, il y a une portée symbolique, mais il y a surtout des déclarations qui montrent la foi active, vivante, qui fait que l'enfant de Dieu que je suis, que vous êtes, que nous sommes, nous comprenons que derrière cet aspect qui est mentionné, tu me donnes la force du bœuf, ce n'est pas la force du psalmiste qui est mentionnée. Parce que qu'est-ce qu'un homme fort devant la force d'un bœuf? Mais c'est l'image de la puissance de Dieu qui l'anime par le Saint-Esprit. Ce soir, frères et sœurs en Christ, quand nous comprenons cela, comme cela a été dit dans une certaine circonstance, dans le livre de Zacharie, alors que Satan accusait Josué, et que Dieu est intervenu en la personne de l'ange de l'Éternel qui était là et qui a demandé qu'on ôte les vêtements sales et qu'on lui mette vêtements propres, qu'on lui mette un turban, etc. À un moment donné, dans Zacharie, le chapitre 4, au verset 4, Zacharie 4:4, il est dit ceci, et reprenant la parole, je dis à l'ange, puisqu'il avait été montré une vision qui me parlait ainsi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Alors je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel, c'était le responsable religieux. Et Josué était le responsable politique. Non, le contraire. Zorobabel responsable politique et Josué responsable religieux. Alors Dieu va prendre les choses en main et dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Alors si le psalmiste prend l'image, il mentionne par la foi et tu me donnes la force du bœuf, cela veut dire que le Saint-Esprit en action anime l'enfant de Dieu et devant les assauts du malin, devant les ennemis acharnés, puisqu'il y parle d'abord des ennemis, eh bien, on lui oppose non pas notre puissance, on lui oppose la puissance du Saint-Esprit. L'autorité du Saint-Esprit au travers duquel Dieu manifeste sa puissance pour mettre en échec les plans du malin contre ses enfants, les plans du malin contre son église, les plans du malin contre ses serviteurs, et Dieu est champion, excusez-moi du thème, pour contrecarrer les plans du malin. Et ce soir, je bénis mon Dieu, car depuis que je suis devenu enfant de Dieu, l'ennemi s'est acharné de toutes sortes de manières, mais à chaque fois, la main du Tout-Puissant s'est déployée. Et Dieu, dans sa grâce, m'a assuré la victoire, la délivrance, le relèvement, la protection surtout, parce que je suis dans sa main. Comme toi, mon frère, comme toi, ma sœur, encore faut-il que tu le croies, et qu'en le croyant, tu vives en conséquence. Parce que l'ennemi, comme je l'expliquais, il est champion pour déployer des artifices, nous faire croire, s'il était possible, le contraire de la réalité dans laquelle Dieu nous a introduits par son Saint-Esprit au travers de la personne de Jésus. Et puis, on revient au psaume 92. Dans ce que j'ai appelé les déclarations de la foi, il mentionne, comme je viens de vous le dire, « Et tu me donnes la force du bœuf », premier aspect de la puissance de Dieu se manifestant en son enfant, mais après il rajoute, après la force du buffle, qu'est-ce qu'il dit? Et je suis arrosé d'une huile fraîche. Alléluia. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Alors, l'huile fraîche a une particularité, c'est que cette huile, l'huile fraîche, vient de sortir du pressoir. Et ce qui caractérise l'huile fraîche, c'est qu'elle possède beaucoup de propriétés qui découlent de l'ensemble des olives passées sur la meule. Déjà, frères et sœurs en Christ, vous qui connaissez un petit peu l'Ancien Testament, Dieu disait à Moïse que tu recueilleras sur les enfants d'Israël de l'huile d'olive concassée. Et cette huile d'olive concassée rentrait dans plusieurs compositions qui étaient demandées par Dieu et qui entraient autant dans les offrandes. Et vous savez bien que pour faire l'huile, il faut que l'olive soit recueillie, mais l'olive recueillie doit passer sous la meule. Et c'est à partir du moment que l'olive est pressée que l'huile maintenant va tomber dans un récipient et pourra être recueillie. Le psalmiste prend cette image d'une huile fraîche. Et derrière cette huile fraîche, frères et sœurs en Christ, il y a l'importance de comprendre, si Dieu nous donne la force du buffle, le Saint-Esprit agissant en puissance, mais derrière cette huile fraîche, il y a l'image du Saint-Esprit qui amène l'onction. Une onction, si c'est vrai, renouvelée, une onction renouvelée. L'onction d'hier est passée. Oh, c'est une même onction, mais j'ai besoin aujourd'hui d'une onction renouvelée. Une huile fraîche. Et vous avez bien vu ce qu'il dit. Je suis arrosé. S'il est dit arrosé, quand vous arrosez quelque chose, ça veut dire que vous faites couler sur lui ce qui vient, ce qui est au-dessus de lui. Oh, que le Saint-Esprit ce soir nous arrose. Une huile fraîche. Quand l'huile est fraîche, la joie est renouvelée. Quand l'huile est fraîche, l'onction est renouvelée. Quand l'huile est fraîche, la louange est renouvelée. Quand l'huile est fraîche, l'action de grâce est renouvelée. Enfin, quand l'huile est fraîche, il amène ce qui est frais, ce qui est nouveau, ce qui fait du bien, ce qui réjouit mon âme, mais qui aussi réjouit le cœur de Dieu. Vous savez comment le Saint-Esprit s'exprime dans l'épître de Jean, dans 1 Jean 1:20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car son onction lui-même vous enseigne toutes choses. Et comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'il n'est pas un mensonge, demeurez en lui. Et lorsqu'il parle ainsi, n'allez pas croire que il veut montrer que nous avons reçu une onction tellement grande qui nous fait trembler. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Certaines personnes pensent que plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus vous tremblez. C'est faux. Plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus je suis maître de moi-même. Ça, c'est une forme de déséquilibre dans lequel certains tombent et se mettent à trembler. J'ai l'onction. Ton onction, moi, j'en veux pas. Car lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous sommes sobres. Nous sommes équilibrés. Nous ne sommes pas là pour montrer un spectacle. Nous sommes là pour montrer Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il parle d'avoir reçu l'onction, ce n'est pas autant la puissance qui me recouvre, mais le Saint-Esprit agissant en moi. Pourquoi ? Car s'il parle après, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi ? Parce que son onction lui-même vous enseigne. Ce n'est pas l'onction qui m'enseigne, mais le Saint-Esprit qui amène l'onction m'enseigne. Il m'enseigne quoi ? L'équilibre. Il m'enseigne la sobriété. Il m'enseigne avec le don la maîtrise de moi-même. Si vous voyez le pasteur gentil venir sur l'estrade et se mettre à trembler pour dire j'ai l'onction, il dit pasteur gentil, on va prier pour vous parce que vous avez besoin d'équilibre. Vous aurez raison, mais rassurez-vous mes bien-aimés, par la grâce que Dieu me fait dans ce cadre-là, le Seigneur sait me donner ce qu'il faut. C'est ça, une huile fraîche. Parce qu'avant de venir sur l'estrade, j'ai une maison, j'ai un bureau où je travaille. Et par la grâce que Dieu me fait, j'ai des genoux que je sais mettre à terre. Pour que je dise au Seigneur maintenant, vous allez tout savoir. Mon Seigneur, je me remets entre tes mains. Donne-moi là pour me préparer. Préparer où ? Chez moi. Préparer à partir. Je remets ma préparation dans la main du Seigneur. Tu bénis mon trajet, mon départ, mon trajet. Tu bénis mon arrivée, ou à l'église. Et surtout, je te prie de diriger le service. C'est pourquoi lorsque le prédicateur vient chez moi, je parle pour moi, hein, mais il y a toute une préparation en amont que les yeux de l'homme ne voient pas, mais que Dieu voit, et qui est importante pour moi. Parce que moi, je ne vais pas venir sur l'estrade pour faire de la figuration. De venir vers le peuple de Dieu avec la pensée de l'Esprit. Et tu m'arroses d'une huile fraîche. Ce soir, l'huile est fraîche sur mon âme. Alléluia. L'huile du Saint-Esprit est fraîche de moi. Parce que quand l'huile est fraîche sur mon âme, eh bien, je vais toujours chercher ce qui plaît à mon Dieu. Vous savez comment parle à Timothée dans ses exhortations? C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et en parlant à Timothée de la sorte, l'apôtre voulait montrer ce qui était assez courant pour l'époque. Lorsqu'il lui dit, l'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu, il prend la flamme. Et à partir du mot « flamme », il y a toute une chaîne de références qui vont nous montrer comment Dieu attend que nous puissions ranimer, être ranimés. Pour que la flamme soit ranimée, eh bien, il faut aller dans le foyer. Et dans le foyer, il faut commencer par enlever la cendre. Parce que lorsque vous avez fait cuire l'aliment sur le bois, il y a de la cendre. Il faut souvent les braises sont cachées sous la cendre. Il faut enlever la cendre. La cendre serait l'image des expériences du passé. Et oui, les œuvres du passé, la cendre, c'est du bois qui a consumé. Mais il y en a qui vivent constamment dans les expériences du passé. Et leur confession, elle est celle-ci. Je me souviens quand. Ah bon? Celui de qui tu te souviens, qui a agi, qui a béni, qui a secouru, il y a peut-être 5 mois ou 10 ans, il n'est pas le même aujourd'hui. Arrêtons de vivre sur les expériences du passé. Car si les expériences sont passées, il y a longtemps qu'elles sont dépassées. Et lorsqu'on enlève la cendre, après maintenant, il faut rassembler les braises. Il faut rassembler les braises. Jésus dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, c'est comme si tu amassais des charbons sur sa tête. Et certaines personnes ont pensé à tort que cette image signifierait, si tu ramasses des charbons sur la tête de ton ennemi, c'est un jugement que tu appelles sur lui. C'est pas ça. La réalité, elle est tout autre. Parce que dans le temps, avoir des braises sous la cendre était considéré comme quelque chose de précieux. Mais oui, parce que si le juif sortait des champs et qu'il n'avait pas de feu, « Voisin, donne-moi un peu de feu !» Le voisin grattait sous la cendre et prenait quelques braises rassemblées et pouvait lui apporter. C'était quelque chose de précieux d'avoir des braises sous la cendre. L'image que prend le Seigneur, elle est symbolique. Après avoir rassemblé les braises, il faut mettre du bois. Il faut mettre du bois. Il faut mettre du bois. Et une fois qu'on a mis le bois, on a fait notre part, mais il faut un élément supplémentaire qui est soit, comme je faisais chez moi aux Antilles, un morceau de carton ou une couverture de bombe. Fait quelque chose qui fait du vent. Et après, au contact des braises et du bois, commençait à voir la fumée qui commençait à monter. Et à un moment donné, en éventant, au contact des braises et du bois sec, à un moment donné, après avoir fait de la fumée, la flamme jaillit. Je l'avais dit que derrière cette image, ranimer la flamme du don de Dieu, je l'avais dit que j'ai ma part à faire. Et quand j'ai fait ma part, alors le Saint-Esprit arrive avec le vent et commence à souffler sur ce que moi j'ai rétabli. Oh, vous qui êtes habitués à la plaque lithocéramique, au gaz, etc., c'est du moderne. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est que faire cuire les aliments sur du bois. Moi, je le connais, moi. Ouais, ben, ceux qui disent ici, ce sont de nouvelles générations. Mais les anciens, on sait ce que c'est. Il fallait aller prendre du bois dans la forêt pour pouvoir faire cuire le repas, à manger pour les porcs. Mais oui, il fallait travailler. Donc, faisais ma part. Et après, hop, le vent faisait sa part au contact des braises et du bois sec. La flamme était ranimée et après, on pouvait passer à l'étape supérieure. Et moi, je suis d'une huile. C'est beau. C'est beau ce que le psalmiste nous donne ce soir comme des déclarations de la foi. Et puis, je vous donne encore une dernière image parce qu'on ne pourra pas tout voir ce soir. Le Saint-Esprit va nous donner à prendre ce qui est bien important, nécessaire. Et après, la prochaine fois, si Dieu veut, nous allons revenir. Alors, regardez avec moi. Il a montré la force du buffle. La puissance de Dieu en action dans ma vie par le Saint-Esprit. L'huile fraîche, la puissance du Saint-Esprit m'amenant à une onction renouvelée. Et puis, à cause de cela, regardez le verset 12. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Alors, je me suis laissé aller à penser, frères et sœurs en Christ, et je vous invite à suivre avec moi le sillon de la pensée qui va nous amener à considérer le paramètre important dans ce que nous venons de lire. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Alors, regardez avec moi Si moi j'ai un ennemi, donc mon ennemi ne se plaît pas spécialement à le contempler. S'il y a eh bien une chose que je voudrais, c'est que mon ennemi soit hors de ma vue. Qu'il disparaisse, s'il était possible. Même qu'il quitte la terre, je me porterai mieux. Ça, c'est moi qui le dis. Ça, c'est humain. Mais pour le psalmiste, c'est différent. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la force du buffle et Dieu l'a arrosé d'une huile fraîche. Alors, il n'a plus obligatoirement l'attitude du méchant ni de celui qui ne connaît pas Dieu, parce que mon ennemi d'aujourd'hui, je me plais à le contempler, parce que je contemple déjà son inefficacité. Je contemple déjà son incapacité. Pourquoi? Parce que Dieu me donne la force du but. C'est-à-dire, je ne suis plus au même étage que lui. Je me plais à le contempler. Pourquoi? Parce que la force du buffle me fait avoir le regard divin. L'huile renouvelée me donne une onction où je peux regarder les choses avec le regard divin. Et je peux comprendre que mon ennemi d'aujourd'hui, son attitude n'est pas autre chose que le résultat de son ignorance. Et là, nous sommes sur le terrain de l'enseignement de Jésus sur le serment sur la montagne. Dieu nous dit de faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Enfin, des choses qui vont à l'encontre de la logique humaine. Mais qui, lorsque je suis devenu un enfant de Dieu, avec la force du buffle, arrosé d'une huile fraîche, c'est le Saint-Esprit qui me donne ses capacités. Je ne m'oppose pas à mon ennemi parce qu'il est mon ennemi. Mais qu'est-ce que je fais? Je prie pour que Dieu l'éclaire. Je suis dans mon rôle d'enfant de Dieu, dans mon rôle de disciple. Au départ, il mentionne les ennemis, certes. Nous l'avons lu. Nous avons lu comment il parle de ses ennemis. Regarde. Verset 9. Il dit à Dieu, mais toi, tu es le Très-Haut, en perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils périssent. Ils périssent et ils mentionnent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Mais là, après qu'il ait été oint d'une huile fraîche et que Dieu lui a donné la force du buffle, qu'est-ce qu'il dit? Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Mais tout en étant ce qu'ils sont, moi je ne les juge pas, je ne les condamne pas. Mais comme enfant de Dieu, je demande à Dieu de les éclairer. Vous savez, frères et sœurs, il y a des moments où, dans la vie chrétienne, Dieu permet que nous soyons confrontés à des situations pour voir justement comment nous nous comportons par rapport à sa parole. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et une sœur a trouvé ça étrange, elle s'est même mise en colère. Elle est venue me voir dans mon bureau pour me dire tout ce dont elle était victime dans son travail. Alors moi, je lui ai posé la question, ma petite sœur, avez-vous commencé à prier pour ces personnes dont tu me... C'est la dernière chose que s'attendait à entendre. Mais moi, pasteur gentil, je l'ai amené à l'écriture. Même si elle trouve ça étrange, ce que je lui dis, ne le dis pas parce que moi je le veux, je le dis parce que Jésus le dit. Alors, quand je fais ce que Jésus dit, laissez-moi vous dire que Jésus va accomplir sa parole pour la circonstance. Bien. Alors, le psalmiste le dit, mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Mon œil se plaît. Je l'avais dit, ce que je vois, entre eux ou en eux ne m'influence absolument pas. Ça me laisse de marbre. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je sers. Celui qui me donne la force du buffle, il est capable de s'occuper de ces situations, mais ce n'est pas à moi de mettre ma main de chair dans quoi que ce soit. Je reste dans ma position. Car trop souvent, frères et sœurs, en Christ, notre vieille nature dans ce cadre-là nous a joué des mauvais tours.
Ça va très vite.
Il m'a fait comme ça, moi je le ferai comme ça. Oui, mais si tu le fais comme ça, tu sors de ton cadre d'enfant de Dieu, tu descends de ta position et tu laisses ta vieille nature t'entraîner sur le mauvais terrain. Alors reste dans ta position. Tu es enfant de Dieu. Tu es habité par le Saint-Esprit. Dieu t'a donné la force du buffle et t'a armé d'une huile fraîche. Alors, ne laisse pas ta chair prendre le dessus et t'entraîner dans ce qui ne convient pas, mais reste là et regarde. Regarde de tes yeux, non pas de tes yeux physiques, mais de tes yeux spirituels. Frère en Christ, pourquoi c'est possible? Pourquoi c'est possible? Il y a trois qui ont dit c'est possible, qui ont dit amen. Et les autres?
Amen.
Mais c'est possible, frère et soeur en Christ. Parce que je suis enfant de Dieu, c'est possible. C'est possible. Je vous donne une dernière pensée. Oui. Eh bien, la dernière pensée, c'est pas compliqué. Elle va ouvrir pour nous, après ce que nous venons de remarquer dans les déclarations de la foi que fait le psalmiste, voici qu'il arrive au verset 13. Et il va nous amener à regarder un peu à ce que nous sommes devenus. Parce que lorsqu'il mentionne ces choses, nous sommes dans l'ancienne alliance. Et pour que l'homme arrive à être dans une certaine mesure de justice par rapport à Dieu, il faut tout un processus. Il parle de sacrifice, d'offrande et tout le reste. Et là, il parle carrément des justes. Et vous savez comment qu'on n'est pas justifié par les œuvres de la loi? Personne. Ce soit nous, comme justes, ce n'est pas les œuvres de la loi qui nous justifient. C'est la foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus. Donc ça veut dire bien qu'il y a derrière ce que nous disons une portée prophétique. Une portée prophétique qui part non seulement de la bouche du psalmiste, mais qui nous dirige directement à la croix du calvaire. Là où ce qu'exigeait la justice et le jugement de Dieu est tombé sur Jésus. Et là aussi, où la justice de Dieu étant satisfaite, sa grâce a été libérée. Pour faire de nous autant ses enfants que des justes à ses yeux. Vous suivez toujours? Bien. Alors, regardez ce qu'il dit concernant les justes. Les justes croissent comme le palmier. Les justes croissent comme le palmier. Et puis après, il mentionne avec le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Et ça, verset 14, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Alléluia! 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 Les justes croissent et la première image qui vient, comme le palmier. Le palmier, vous le savez, frères et sœurs en Christ, si nous devions nous occuper du palmier, je vous assure qu'il nous faudrait au moins 5 ou 6 réunions. ou décortiquer le palmier dans tout ce que la Bible pourrait nous donner comme information. Mais comme le temps nous manquerait, nous allons aller à l'essentiel. Mais le palmier, ce qui le caractérise, c'est que c'est un arbre qui n'a pas de difficulté à pousser dans une terre aride. Pourquoi ? Parce que dans une terre aride, le palmier a une particularité qui consiste à faire entrer ses racines très très profondément dans la terre où il a la capacité d'aller chercher l'eau que les yeux ne voient pas. Mais qui est là ? Alors lui, il a la capacité de le chercher. Et deuxièmement, deuxième particularité, c'est que le palmier, fort souvent, c'est un arbre qui pousse droit. Droit. Et quand vous regardez un palmier, il y a un aspect des racines qui sont apparentes, mais qui s'enchevêtrent de telle manière qu'il est difficile de le bouger. Cela s'appelle la stabilité. Et cette stabilité, pour l'enfant de Dieu que je suis, que nous sommes, que vous êtes, c'est parce qu'il est planté où ? Dans la maison de l'Éternel. Ce qui spécifie l'importance de la fidélité qui amène la stabilité. Il y a quelque temps, je vous expliquais que le Covid-19 auquel nous sommes confrontés a été particulièrement révélateur sous certains aspects concernant les enfants de Dieu. Certains ont estimé que Covid-19, eh bien, difficulté tellement considérable, eh bien, ils ont commencé à prendre du recul. Ils ont tellement pris de recul que vous ne les voyez plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le Covid-19 qui me fait faire marche arrière concernant Jésus. Mais le Covid-19 devait me précipiter dans les bras de Jésus. Et montrer au Seigneur que Covid-19 ou pas, je suis à mon poste. Excusez-moi, mais je soulève un petit bord du voile. Et je rappelle que même parmi certains diacres, eh bien, on ne les voit plus. Moi, je pars du principe que si je suis un diacre, parce que moi, avant d'être pasteur, j'ai été diacre. Laissez-moi vous dire qu'en tant que diacre, je ne loupais pas une réunion. Pas une! J'étais toujours là, à côté des serviteurs. J'étais à mon poste. Comme le prophète, j'étais à mon poste, et j'étais à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Alors, parce que j'étais à mon poste, alors Dieu me dit, c'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Elle marche vers son thème. Mais si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira, et s'accomplira certainement. Alors, il a bien fallu entendre la voix qui lui parle. Il était à son poste. Mais le poste pour moi, c'est ta place dans l'église. Parce que la sentinelle, vous le savez, dans l'époque, elle avait une grande responsabilité. Premièrement, c'était un grand surveillant, par la vigilance, et deuxièmement, c'était un avertisseur. Et en même temps, il devait veiller sur lui-même pour ne pas se laisser endormir par le sommeil. Donc sa responsabilité était grande. Veiller sur l'arrivée d'ennemis éventuels et avertir le camp afin qu'ils se mettent en ordre de bataille. Mais si tu n'es pas à ton poste, qui va veiller pour toi ? Mais bien aimé, je sais que dans ce cadre-là, chacun est à son niveau. Mais laissez-moi vous dire que il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait. Et notre Seigneur Jésus-Christ en a parlé prophétiquement dans le psaume 69. Et cela est repris dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Les disciples se souvinrent qu'il était écrit de lui, quoi ? Car le zèle de ta maison me dévore. Prophétiquement, le psaume 69. Car le zèle de ta maison me dévore. Et quand Jésus est monté à Jérusalem, dans le temple, il a pris un fouet. Il a chassé les changeurs et les vendeurs. Il leur a dit, ôtez cela de la maison de mon Père. Car il est écrit que la maison de mon Père sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Vous savez ce qu'ils ont dit à Jésus? Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Quand Jésus leur dit cela, ils vont amener les choses sur un plan humain. Il a fallu combien d'années pour construire ce temple? Et toi, tu vas le détruire, tu vas le construire pour construire ce temple, et tu vas le détruire et le construire en 3 jours. Mais ils n'avaient pas compris que Jésus parlait du temple de son corps. Mais bien aimé, vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas toujours l'unanimité. Pourquoi ouvrez-vous de grands yeux? Je vous ai dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, ne faisait pas toujours l'unanimité. Écoutez, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il se définit comme le bon berger. Et quand il se définit comme le bon berger, ceux qui étaient là ce jour-là ont dit, il a un démon, c'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi? Eh bien, la déclaration de Jésus les a scandalisés parce qu'ils ont dit que Jésus se faisait Dieu. Le psalmiste se dit, l'Éternel est mon berger. Alors quand Jésus dit, je suis le bon berger, alors ils disent que Jésus se prend pour Dieu. Mais il ne se prend pas pour Dieu, il est Dieu. Arrosé d'une huile fraîche, la force du buffle, planté dans la maison de l'Éternel, alors les justes croissent comme le palmier. Et puis le palmier a une autre particularité, que si nous voudrions le regarder de plus près, nous touchons l'écorce. C'est l'extérieur. L'écorce est très dure. Mais si vous allez vers le milieu, au cœur est tendre. Moi, j'aime bien manger du cœur de palmier, arrosé de vinaigrette. C'est délicieux. Chez nous, aux Antilles, on a des palmiers qu'on appelle des cocotiers. Eh bien, lorsqu'on coupe le cocotier, on prend le cœur. Et laissez-moi vous dire, quand vous faites préparer du cœur de cocotier, il y a une partie qui est sucrée, il y a une partie qui est tendre, il y a une partie qui est cuite. On fait des salades, mais c'est extraordinaire. Pourtant, quand vous le regardez à l'extérieur, on ne dirait pas. Eh bien, les justes croissent comme le palmier. À l'intérieur, on est prêt à combattre, mais on a un cœur d'enfant par rapport à notre Père. Certes, on ne se laisse pas faire. Quand il faut y aller, il faut y aller. Mais quand le Saint-Esprit nous anime, la douceur de Christ rapidement prend le relais. Et puis, il y a encore deux priorités, deux particularités pour le palmier. La première, c'est sa capacité à produire beaucoup de fruits. Prenez par exemple le palmier dattier. Lorsqu'on voit un palmier dattier, chaque grappe doit avoir au moins près de 300 fruits dedans, tellement c'est long. J'aime bien manger des dattes, autant fraîches que confites. Qu'en paraît-il? Les dattes, qui sont succulentes, ont beaucoup de propriétés. Beaucoup.
Je crois qu'il y a moins une tranche d'au moins 10 vitamines dans une petite date. Et puis pour terminer, dernière particularité, pour conclure le message, à l'image du juste, c'est que le palmier, si vous prenez une machette et que vous lui faites un coup, et donnez un coup sur l'écorce, vous passez 3 semaines après, la blessure est déjà cicatrisée. Ça veut dire qu'elle a cette capacité d'auto-régénération. Enfin, j'emploie ce terme-là, je ne sais pas si c'est à sa place. Hein. C'est bon, Philippe? Ah, merci, Philippe. Il s'auto-régénère. Tout seul. Cela veut dire qu'il a cette capacité de penser lui-même ses blessures. Ce soir, tu es juste. Tu es un enfant du Père. Il y a quelque chose qui est important et qui va te donner le pansement des blessures, c'est le pardon. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Ce soir, nous n'aurons pas le temps de voir le 7 du Liban. Et puis, nous n'aurons pas le temps de voir les autres points. Mais je crois que le Seigneur a su nous donner au travers de ce que nous avons partagé. Je sais que j'ai été un peu long. Qui c'est qui a dit que ce n'est pas grave? Je sais que ce n'est pas grave, mais je le dis, j'ai été un peu long parce que j'ai voulu vous donner le maximum du sujet. Allez, on prie le Seigneur, mes bien-aimés, que Dieu soit béni. Alléluia.